C'est un peu la Ligue 2 des VC. Il y a moins d'argent, mais on sent que ça brasse quand même des millions.
On doit rentrer comme ça, là ?
À tel point qu'on a failli se perdre dans le bâtiment. Chez Eric, on est beaucoup mieux accueillis.
Ah, alors, bonjour. Faut que je me lave, ça va ?
Alors, il fait peut-être partie de la Ligue 2, mais Eric, c'est pas n'importe qui.
J'ai eu la chance à Texas Instruments d'être au début des chips. C'est devenu le téléphone cellulaire. On était 4-5 au début à travailler là-dessus. C'est devenu un business de plusieurs milliards. Ce qu'on aime, c'est trouver des produits, des marchés qui ne sont pas servis et avoir une très forte croissance. C'est notre métier. Et j'ai fait ça 3 fois, amener des lignes de produits de quelques ingénieurs à plusieurs milliards de dollars. Et c'est vrai que c'est une drogue, d'une certaine façon. Quand on y a goûté, on veut y revenir. Voilà.
Alors on rigole, mais on parle de centaines de millions de bénéfices.
Ça, c'était quand ils ont passé la capitalisation au marché du Nasdaq de 500 millions. Ben voilà, eux, c'est une bouteille de vin.
Et des trophées comme ça, il y en a des dizaines.
Et on est un fonds de taille moyenne. On a à peu près 500 millions de dollars sous gestion.
Bon, en fait, c'est plutôt pas mal pour la Ligue 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cet argent, il n'appartient pas au VC. Ce n'est pas Eric qui finance directement la tech.
On lève de l'argent auprès de tiers, en général des compagnies d'assurance, des gros family office, des banques. Par contre, les investisseurs nous demandent d'investir notre argent personnel.
Bon, en fait, il y a quand même un peu d'argent d'Eric, entre 3 et 5%. Ça veut dire que si Eric convainc des gens d'investir 1 million de dollars pour une start-up trop stylée, Eric devra mettre 50 000 dollars de sa poche. Et tout ça pour être sûr qu'Eric soit très impliqué dans la réussite de la boîte. Ils sont pas fous, les gens riches.
Ah bah oui, ils veulent être sûrs que nous, si ça marche pas, on souffre aussi. Sinon, c'est trop facile.
Et c'est comme ça dans la vallée, un amour du risque inconditionnel. Et c'est la même règle depuis 1961, quand, inspiré par ce qui se faisait sur la côte Est, s'est installé le premier VC de la vallée, Davis & Rock, qui avait investi dans une des premières boîtes de semi-conducteurs qui les rendra riches. En moins de 10 ans, des mastodontes encore vivants aujourd'hui, comme Kleiner Perkins ou Sequoia Capital, viendront s'installer sur Sandhill Road, juste à côté de Stanford, et embrayeront le pas à Davis & Rock. Le monde des VC, Luc aussi, il le connaît bien.
T'es déjà allé sur Sandhill Road toi-même demander de l'argent ?
Ah oui. Ouais, quand je faisais mes startups, j'ai fait quelques trips sur Sandhill Road.
Avant de bosser pour des grands groupes de la tech, Luc a monté 3 startups, dont 2 qu'il a réussi à revendre. Une qui faisait du streaming avant tout le monde, Orb Networks, et une autre dans la reconnaissance vocale, sa grande passion, Soliloquy Learning.
Donc ce qui se passe, c'est qu'on vient ici pour pitcher des idées devant 2-3 partenaires de ces VC, et ils nous écoutent bien poliment, ils nous rejettent tout aussi poliment.
T'as essuyé beaucoup de refus ?
Oh ben oui.
Se faire refouler par un VC, rien de plus normal.
Combien de candidatures reçoit-on par an ici ? À peu près 800 par an. Et sur 800 par an, on va investir dans 4 à 5.
Que t'as one shot en général, hein, parce que les mecs qui sont un peu pressés, on va dire, tu peux pas leur faire perdre leur temps. Mais bon, t'as 300 VC, donc t'as 300 fois one shot.
Honnêtement, au bout de 15 minutes, on voit tout de suite s'il y a quelque chose qui a d'intérêt. Quoi. Pourquoi personne ne l'a fait avant et pourquoi on peut créer un gros business.
Mais alors, comment on convainc un VC de nous donner de l'argent? Pour comprendre comment ça marche, on retrouve notre entrepreneur dans l'IA, Emmanuel Demestre. Et lui, c'est un expert en séduction de VC.
Moi, j'ai fait 7 levées de fonds au total. J'ai levé 6 millions en janvier, suivi par 5 millions en juin.
Une levée de fonds, c'est quand un ou plusieurs VC lâchent de l'argent à l'entrepreneur en échange de parts dans le capital de sa boîte. Alors comment on fait pour les séduire?
La mécanique de levée, c'est très codifié. Quand on contacte des investisseurs, on le fait généralement par une introduction. Contacter en direct un investisseur, en l'occurrence, c'est un mauvais signal. Donc l'investisseur va non seulement juger la qualité du projet, mais il va aussi juger la qualité de la personne qui introduit l'entrepreneur.
Ces rencontres entre les entrepreneurs et les VC, elles peuvent avoir lieu dans les bureaux somptueux de Sandhill Road, dans des restaurants comme celui de Tyler, ou dans des lieux un peu plus inattendus que Luc tient à nous faire découvrir.
Alors nous voilà à... C'est l'hôtel certainement le plus cher de la vallée. Je sais pas exactement combien là, ça peut être, mais je pense qu'à 2000, vous avez rien, quoi. Il est assez bien placé parce qu'il est juste à côté de chez les VC.
Situé au cœur de la Silicon Valley, l'hôtel se déploie sur plus de 16 hectares près des montagnes de Santa Cruz. Cette retraite saura séduire les visiteurs venus pour le business comme pour le tourisme.
Bon, ça sent le cheval, hein.
Mais cet endroit, il est surtout connu pour ça.
Bah, le jeudi soir, il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était connu comme The Cougar Night.
Et là, on est quel soir, là, aujourd'hui?
Ah ben, bah, on est jeudi soir. C'est ce soir que vous allez y aller, les gars.
quand Luc mentionne le Cougar Night, il fait référence à une enquête du journal Vanity Fair parue il y a 10 ans. On y apprend que deux coachs en dating pour Vici désespérés avaient pris d'assaut le pour organiser des rencontres un peu chaudes.
J'ai pas de lunettes là du coup, donc moi je vois 2 mètres quoi.
Ce qu'on retient de cette soirée, c'est l'ambiance ultra-select dans laquelle peuvent évoluer les VC et les entrepreneurs.
Moi j'ai pris le moins cher, c'est la bière 14$.
C'est le moins cher,
c'est 14$, c'est la bière.
Ah non.
Pardon, le moins cher, c'est le café 9$.
C'est dans des soirées comme celle-là qu'on discute et qu'on décèle les dernières innovations, tendances de la vallée. Parce que pour séduire un VC, une bonne introduction, ça suffit pas.
Faut essayer de comprendre et d'anticiper les tendances avant qu'elles soient évidentes.
Et ça, Emmanuel, notre champion des levées de fonds, il l'a bien compris.
Ma boîte d'avant s'appelait Redbird, c'était dans les drones. Les VC français n'étaient pas aussi intéressés sur le secteur drone que l'étaient les VC américains qui investissaient des sommes phénoménales. 20 millions, 50 millions, 70 millions.
Mais les tendances comme les drones passent parfois de mode et les bulles explosent.
La boîte a fait faillite, ce qui est extrêmement courant ici dans la Silicon Valley. Énormément de boîtes qui se montent, énormément de boîtes qui lèvent de l'argent, énormément de boîtes qui font faillite. En moyenne, c'est 9 sur 10. J'ai énormément appris de cette expérience parce que l'échec, ici, est célébré. C'est sûr que c'est pas agréable quand on doit fermer une boîte où il y a 50 personnes, dire à tous les clients, à tous les investisseurs que c'est fini. Mais les investisseurs et les clients et les partenaires d'une start-up regardent tant les réussites d'un entrepreneur que ses échecs. Et pas plus tard qu'il y a un an, on a transitionné, on a pu pivoter sur un nouveau concept où cette fois-ci, on utilise l'IA générative pour faire des modèles 3D et des modèles de jeux vidéo. Tout ce qu'on voit ici à l'écran, ça a été créé par de l'IA et entièrement par de l'IA.
L'IA est au cœur de toutes les levées de fonds, à tel point qu'on a trouvé un VC qui l'utilise carrément pour chasser des entrepreneurs. Chris Farmer est à San Francisco, dans la ville où, en parallèle de Sand Hill Road, se concentrent les VC nouvelle génération.
We're the first venture firm built on an AI platform. We actually track and rank almost every engineer in the Western world.
Sa technique pour trouver la perle rare, c'est de surveiller tout le monde. 80 millions d'entreprises et 600 millions d'employés dans le monde pour faire des investissements. Rien que ça.
Some people joke that we're the CIA of the venture world.
En écoutant Chris, on a l'impression qu'il est en train de nous pitcher sa boîte pour qu'on investisse dedans.
We're the number one player in the world.
Bon, et lui aussi, il nous confirme qu'il y a bien des phases dans la vallée.
It's amazing. A few years ago, probably 70% of the pitches we got were around cryptocurrency. Today, it's probably 80%+ AI.
Les cryptos, mais aussi les NFT ou le metaverse, par exemple, n'ont pas eu le succès escompté. Parfois, les VC et toute la vallée s'emballent. Ils ont peur de rater la prochaine révolution. Et du coup, ils crament des milliards. Mais de temps en temps, ça fonctionne de manière extraordinaire. Et de simples modes deviennent des révolutions technologiques. Les smartphones, les applis, les réseaux sociaux. Et surtout, l'ordinateur personnel. Les révolutions de la Silicon Valley ont engendré une migration folle dans la région, chacun cherchant à vivre son American Dream. Mais tout le monde peut-il vraiment réussir ici?
Ellos ganan mucho dinero y nosotros ganamos poco dinero.
Luc a déposé ses valises dans la Silicon Valley en 1994, lorsqu'il avait 28 ans. Et quand on lui demande ce qu'il animait à l'époque, il se lance dans un cours d'histoire.
La vallée, c'est l'Eldorado, hein, depuis 1848, hein, donc ça a commencé comme ça.
Le phénomène dont Luc nous parle, c'est la ruée vers l'or. Au 19e siècle, 300 000 immigrés venus du monde entier se sont précipités en Californie.
Et donc ils sont arrivés, justement, cette notion de gens qui arrivent de partout pour trouver l'or à l'époque. Après l'or, ça a été le silicone, et après ça a été Internet, et après ça a été etc. Donc à chaque fois, il y a un nouvel or.
Luc, il va peut-être un peu fort en comparant la ruée vers l'or dans la Californie à la tech dans la Silicon Valley. Mais c'est parce que lui, l'immigration, il y croit dur comme fer.
Le chiffre qu'il faut retenir de cette vallée, c'est 62% de non-américains. Ce chiffre-là, il est incroyable. Ça veut dire que vous avez 62% des gens qui arrivent de partout dans le monde pour venir chercher l'or. Et ils sont là pour amener dans leur expérience, leur culture, des prismes différents. Et c'est pour ça qu'on invente ici. Parce que les gens sont différents et ils se tapent entre eux. Et ça fait c'est des silex qui font des étincelles extraordinaires. C'est ça, la Silicon Valley.
Luc, en bon silex, a tenu à nous montrer un lieu qui n'a cessé de l'inspirer depuis qu'il est arrivé sur la côte ouest et qui démontre pour lui la réussite de l'immigration. Allez, direction San Francisco.
Donc ça, pour moi, c'est la vue incroyable de San Francisco, là. C'est irréel, on est d'accord.
Et directement, il nous a amené à Chinatown, dans le plus grand quartier chinois au monde après New York. Mais le Chinatown de San Francisco, c'est surtout le tout premier quartier chinois historique des États-Unis. Il est né en 1849 avec l'arrivée en masse de Chinois lors de la ruée vers l'or.
Vous savez que Bruce Lee est né à San Francisco.
Et dans ce quartier de plus de 70 000 habitants, Luc nous amène dans un lieu qui symbolise pour lui les possibilités de réussite pour les immigrés aux États-Unis. La fabrique des Fortune Cookies. La légende raconte que les Fortune Cookies, vous savez ceux-là avec les petits papiers, ils seraient nés ici, à San Francisco, et non en Chine. Alors Luc a vérifié auprès du patron, Kevin Chan.
Before that, there was no cookie?
Oh, the cookie is different. They don't taste like that. Okay. With the original, with the...
Original, is it the first time there were paper in the cookies, or there were paper before?
The paper in there.
First time?
First time.
First time here.
Yeah.
Et là, Luc, il part en vrille. Il se met à fabriquer des Fortune Cookies.
Tac, tac, tac. Ah, okay. Ah, it's hot.
Mais cette histoire, elle est pas un peu trop belle?
Tu crois que c'est vrai?
Ça?
Ouais. D'après toi, est-ce que tu crois que les Fortune Cookies ont été créés à San Francisco?
On a fait nos recherches. Les Fortune Cookies ne sont pas nés dans cette boutique. En fait, leur histoire est compliquée. On ne sait pas bien s'ils sont nés à Los Angeles, au Japon ou dans un parc à San Francisco. Mais on peut pas en vouloir à Kevin Chan de nous faire un peu de storytelling. Déjà, raconter des histoires pour se vendre, c'est comme une religion ici. Mais surtout, avec la hausse drastique des loyers, il n'a pas le choix. Il doit en écouler des Fortune Cookies. Cette hausse des prix, elle est partout dans la vallée. L'essence, les écoles, la nourriture. C'est même l'une des régions les plus chères au monde. Mais le plus gros problème, c'est le logement. Et ça, on l'avait remarqué tout au début de notre séjour. En visitant Stanford, on était passé sur la route de Camino Real.
On n'est pas passé devant les caravanes. Donc là, on arrive sur le Camino Real. C'est grande artère. Il y a des dizaines de caravanes, camping-cars. On vient tout le long. Et c'est là où habitent donc les gens qui ne peuvent pas se payer des apparts dans le coin et qui travaillent en général pas loin. Beaucoup de ces caravanes-là, c'est des infirmières de l'hôpital de Stanford parce qu'elles ne peuvent pas se payer la location. Et donc du coup, elles habitent dans ces camions-là.
Mais la ville, elle fait rien pour ces personnes alors qu'elles sont vitales?
Non, mais attends, aux États-Unis, là, ce que tu es en train de me dire, c'est un truc social. Tu plaisantes? Et là, juste là, bah, t'as Stanford avec tous les sportifs de Stanford, machin, les riches et tout ça.
Une des personnes qui peut nous parler le mieux du logement, c'est Brianna Ramirez, une agente immobilière.
I'm second generation realtor following in my father's footsteps. Me growing up here in the last 33 years, I've really seen the evolution of it just being a small town into it being one of the most desirable cities to want to move and work and live in.
La maison qu'elle a accepté de nous faire visiter se trouve à Campbell, une petite ville au sud de la Silicon Valley.
So the home is this last one on the corner. Realtor, anyone home?
Here we have dining area, kitchen. We have one bedroom over here.
And this would be considered the primary bedroom.
Cette maison, elle a l'air très confortable. Mais il y a un petit hic.
This one's listed right now at just under 1.3 million.
Cette maison, seuls des ingénieurs travaillant dans la tech, les techies, pourront se la payer. Et dans des lieux plus centraux de la Silicon Valley, comme à Palo Alto ou Menlo Park, ce genre de maison peut atteindre 2 ou 3 millions de dollars.
People could be making six figures, which back in the day, six figures, you know, that meant you were making money. Nowadays, if you're making 100,000, you're barely cutting even with living comfortably here in Silicon Valley.
Avec 100 000 dollars par an, partout ailleurs dans le monde, on est riche. Et là, c'est à peine suffisant. Et comme année après année, les prix ne cessent d'augmenter, les plus pauvres de la Silicon Valley sont obligés d'aller vivre de plus en plus loin de leur lieu de travail. On est retourné voir Richard Walker. En bon professeur de géographie, il nous a sorti une de ses plus vieilles cartes.
I love this map. You can't get one of this quality anymore.
Pour nous faire un topo très clair sur la région.
All right, the Central Bay Area is this, and that contains about 5 million people. Here is San Francisco. So you would have the elite engineers up here and on this side. A lot of ordinary workers, food workers, construction workers especially. They don't live here. They live all the way out here, in my bookcase.
Quand on est travailleur et qu'on vit tellement loin qu'on n'est pas sur la carte de Richard, ça peut vite devenir l'enfer. C'est par exemple le cas de Ismelda et Patty. Elles sont toutes les deux cuisinières dans les cafétérias d'un des cinq géants de la tech. Mais par peur de représailles de leur employeur,
Elles nous ont demandé de ne pas citer son nom.
Bienvenidos, este es nuestro hogar. Nuestra casa nos costó 315 mil dólares. Una casa de este año en Silicon Valley vas a pagar no menos de 1,5 million.
Tous les jours, elles font le trajet entre chez elles, à Modesto, et le centre de la vallée. Et on a décidé de faire le trajet avec elles.
Muchas veces tenemos que conducir 2-3 horas, todo depende del tráfico. 3 horas a veces de ida, 3 de venida.
¿Significa que hay días el trayecto dura 6 horas?
Sí. En las cafeterías de hay un promedio de 3,000 personas que trabajan en las cafeterías. Yo digo que el 95% de los trabajadores de las cafeterías de viene siendo latino.
Ce cas est loin d'être isolé. Selon une étude réalisée en 2016, les personnes noires et latinos représenteraient 58% des effectifs des travailleurs non qualifiés de la Silicon Valley. Et ils ne représentent que 12% des employés qualifiés de la tech. C'est pas vraiment l'idée qu'on se faisait du rêve américain.
Ellos ganan mucho dinero.
No, me
cago. Nosotros ganamos poco dinero para tener que viajar hasta acá. Mi salario por hora es como $26.50 la hora. No es suficiente para sobrevivir. Por eso creo que tenemos el derecho o le pedimos que nos den un poco más de lo que estamos ganando ahorita, porque cada año, cada día, todo es más caro.
Un discours aussi cash, c'est très rare aux États-Unis, surtout dans la tech. Parce que les employés signent souvent des NDA, des clauses de confidentialité. Et si Ismelda et Patty ont pu nous parler face caméra, c'est parce qu'elles sont syndiquées. Du coup, on a rencontré le porte-parole de leur syndicat, Working Partnership USA.
It's not exactly the lap of Silicon Valley luxury. Here's us.
Et on va mieux comprendre la réalité des travailleurs dans la vallée.
We have more people working in the Bay Area than are living in the Bay Area. For every one of those, you know, software engineers or kind of, you know, technical workers, it takes about another 6 workers in the economy to be able to support, you know, that operation. You know, you got people cooking meals, you have people working as security officers, people who are driving the proverbial Google buses that you see driving up and down the highways. You know, these are folks that are sleeping in garages, who are living in their cars, who are commuting multiple hours to be able to find housing cheap enough to be able to support themselves and their families. You are working in the cafeteria at you may have seen the stock prices, you know, go through the roof during your time serving these workers, but you're not benefiting in that same kind of way. You're not getting the high salary, you're not getting the stock options, you're not, you know, seeing the benefits, but you are seeing the negative impacts. You're seeing your rent go up. You're seeing it, you know, become harder and harder to actually get into work and to keep on supporting yourself and your family.
Et là, on a vraiment compris. Dans la vallée, il y a 2 catégories de gens. Ceux qui réussissent dans la tech et qui y vivent le rêve américain. Et les autres, qui non seulement ne vivent pas le rêve américain, mais qui subissent en plus la réussite des autres.
I love the diversity of the Bay Area. I love the fact that so many immigrants are participating in this, both upper level and lower level. But that doesn't change the fact that there is a massive class system, an enormous class divide that's one of the biggest in the world. Because we're well-to-do doesn't mean we don't have poor people, and it doesn't mean we don't have inequality. Our inequality emphasizes the upper end, that is, more rich people, more extremely well-paid professionals, but you still have that bottom third, that bottom half, who struggle to make ends meet, to survive in this area.
Notre voyage dans la Silicon Valley se termine. Au cours de notre séjour, on a réalisé qu'on avait sillonné une terre de démesure. De par son histoire et ses innombrables révolutions technologiques, de par ses géants pesant des milliers de milliards de dollars, et de par ses inégalités que le coût de la vie exacerbe. Cette démesure ne laisse aucun de ses habitants indifférent.
I love living in the Bay Area. It's a wonderfully beautiful and diverse place.
J'irai nulle part ailleurs.
ça reste the place to be.
But I like it less than I did before because it's become so rich and so exclusive.
No se puede sobrevivir allá. Muy caro para vivir.
Silicon Valley is the best place to innovate in the world.
Innovate what?
They're going to find a way to make it better and really change up the world.
I do not think that Silicon Valley will save the world.
Si je devais définir la Silicon Valley en un mot, je dirais speed.
Innovative.
Optimism.
Exciting.
It's a culture, it's a mentality, it's a welcome of somewhat radical ideas.
De locos.
Ça se passe ici, ça se passera, je pense, toujours ici. La Silicon Valley, c'est là où on fait la technologie. Il y a quelque chose certainement qui est une forme d'inconscience et de vouloir faire mieux que l'autre sans forcément penser à toutes les conséquences que ça peut avoir.
Et pour la première fois, cette inconscience que rien ne pouvait arrêter se retrouve au pied d'un mur, les limites de la planète.
Quelque part, la Silicon Valley, la technologie, sauve le monde. Mais elle peut aussi, évidemment, le faire exploser.
C'est ça le prochain défi de la Silicon fucking Valley. Réussir à faire avancer le monde sans le brûler.